Au fil des pages. Au fil des pages, une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour, aujourd'hui je vous propose d'évoquer une figure du XVIIIe siècle que l'on croit connaître et qu'en vérité on ignore. Je veux parler de Parmentier. Et avec nous pour évoquer ce pharmacien au grand cœur, j'ai le plaisir de recevoir Anne Muratori-Philippe qui a consacré à ce personnage un ouvrage paru chez Plon qui s'intitule tout simplement Parmentier. Anne Muratori-Philippe, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être à notre antenne. Je rappelle que vous êtes correspondante de l'Académie des sciences morales et politiques, que vous avez été journaliste, grand reporter au Figaro et critique littéraire, particulièrement sur les ouvrages historiques, puisque vous êtes vous aussi historienne, qu'on vous doit aussi un grand ouvrage sur les Invalides, le monument des Invalides et l'histoire des Invalides. Je le signale parce que ce n'est pas sans lien avec Parmentier. Et je dois dire que grâce à vous, bien sûr, j'ai découvert que Parmentier, je m'en doutais un peu, n'était pas que l'inventeur de la pomme de terre ou du hachis du même nom, mais bien au-delà. Alors pourquoi est-ce qu'on a attaché à ce personnage une étiquette si restrictive? Pourquoi est-ce qu'on ne sait pas qu'il est un grand découvreur, grand chimiste, grand botaniste, grand agronome, enfin qu'il est un personnage beaucoup plus large qu'on le croit?
Je crois tout simplement parce que le savant était en même temps un très bon communicateur et comme il a travaillé sur la chimie alimentaire de la pomme de terre dans le but d'améliorer les conditions de vie des Français, c'est ce qui est resté, c'est toutes ces tentatives et toutes ces grandes opérations de propagande autour de la pomme de terre qui sont restées et on a du coup oublié le savant et le grand pharmacien qu'il a été.
Alors, il est né en Picardie, donc je dis à Montdidier, le 12 août 1737, et rien, au fond, ne le prédestinait dans sa famille à devenir un grand pharmacien.
Non, son père était un artisan linger, une famille extrêmement modeste de Picardie, même si sa mère était d'une extraction un petit peu plus élevée. Et c'est grâce à sa mère, d'ailleurs, qu'il a commencé à avoir un enseignement particulier. Et notamment, il a appris le latin avec le curé de la paroisse. Et c'est grâce à ce latin, d'ailleurs, qu'il parlait et qu'il lisait parfaitement, qu'il a pu se placer comme petit apprenti, petit commis, dans une apothicairie d'un lointain cousin des Parmentiers.
Vive le latin qui mène à tout, même à découvrir les bienfaits des herbes et des plantes. Antoine Augustin Parmentier, puisqu'on apprend aussi ses deux prénoms, qu'on ne nomme jamais d'ailleurs, vous avez remarqué, devient donc, après avoir été commis, on peut dire, apothicaire dans sa Picardie natale, il part à l'armée et là, il devient apothicaire dans l'armée. Alors, quel était le rôle de l'apothicaire dans l'armée?
Alors, il part à l'armée parce que...
C'est les armées de Louis XV, là, disons.
Oui, c'est la guerre de 7 ans.
C'est la guerre de 7 ans.
Il n'avait pas d'argent, le Parmentier. Il était sans le sou. Donc, le meilleur moyen pour apprendre le métier et pour vivre, c'était de s'enrôler. Chaque fois qu'il y avait une guerre, on levait les armées. Et à côté de ces armées, il y avait les commissionnaires des guerres, il y avait toute l'intendance qui suivait. Et il y avait un service de santé des armées qui fonctionnait au moment où, de la guerre, pendant la guerre. Donc on embauchait à ce moment-là, on lançait un appel dans tout le royaume pour faire venir des apothicaires, des jeunes commis apothicaires, pour s'enrôler et avoir un rôle dans l'armée. Alors le rôle, c'est très simple. Sous les ordres d'un grand pharmacien des armées, l'apothicaire est chargé de s'occuper des remèdes et des médicaments, de les donner et de les faire administrer aux malades, mais aussi sur les champs de bataille, son rôle est d'aller aux avant-postes et de récupérer les blessés.
Mais j'ai vu aussi un autre rôle que vous signalez dans votre livre, qui est celui de se soucier de la conservation des aliments, parce qu'au fond, il n'y avait pas de moyens de conservation, sauf de saler, etc. Et lui se souciait beaucoup de savoir comment, au fond, les aliments périssaient, devenaient périssables, et c'est comme ça qu'il en est venu à étudier la chimie des aliments.
Voilà, il s'est beaucoup occupé des biscuits, les fameux biscuits qu'emportaient les marins, et notamment les expéditions, l'expédition La Pérouse. Beaucoup de marins mouraient du scorbut et il a essayé de trouver un système pour que ces biscuits puissent tenir toute une campagne maritime.
Voilà comment on apprend des choses. Mais on apprend aussi dans votre livre, c'est l'un de ses intérêts, c'est que vous nous plongez dans tout le milieu scientifique du 18e. Et là, on croise au fil des pages de votre livre tous les grands noms de la chimie, Lavoisier particulièrement, mais enfin tous les autres aussi. Et il les a tous connus.
Il les a tous connus, il les a tous fréquentés. Il a aussi beaucoup fréquenté le Jardin du Roi avec Buffon, Daubenton, Thouin. Parce qu'il s'occupait de botanique, il a herborisé et en herborisant, il avait un jeune confrère avec lui, c'était Jean-Jacques Rousseau. C'est amusant quand même de savoir qu'ils ont herborisé tous
ensemble.
Les deux.
Alors voilà qu'en 1765, notre Antoine-Augustin Parmentier devient pharmacien gagnant maîtrise. Alors c'est quoi pharmacien gagnant maîtrise? Que veut dire cette expression?
Alors c'est l'étape avant d'avoir la maîtrise, d'être vraiment le pharmacien chef. C'est toujours dans le système des armées, hein, dans l'organisation des armées. Il passe le concours. À son retour, il va passer le concours des invalides parce qu'il n'a pas d'argent. Toujours, il ne peut pas se placer dans une pharmacie. On n'a pas besoin de lui. Il ne pourrait être que commis. Or, tous les pharmaciens qui l'ont eu, et Bayen, son pharmacien en chef des armées, lui dit qu'il est doué pour la pharmacie, qu'il faut qu'il continue. Donc la seule solution, c'est de passer les étapes. Quand il a été libéré à la fin de la guerre de 7 ans, il avait obtenu ce titre de gagnant maîtrise, c'est-à-dire juste avant d'être pharmacien en titre. Et pour être pharmacien en titre, il a trouvé la solution, c'est que le concours de pharmacien de l'hôpital des Invalides, de l'hôtel des Invalides, a été, il y avait une place vacante. Il s'est présenté à ce concours et il a été reçu brillamment. Et donc, il est devenu pharmacien
des Invalides.
Des Invalides.
Alors là, vous nous avez évidemment, vous rentrez dans un sujet de prédilection pour vous, puisque vous êtes une grande amoureuse spécialiste des Invalides. Donc là, il y vit très longtemps, Parmentier, il y est logé, jusqu'à ce qu'on l'en déloge d'ailleurs. Mais enfin, il est très heureux aux Invalides, parce qu'il peut se livrer, il a un laboratoire, il peut se livrer à ses expériences, n'est-ce pas?
Alors malheureusement, le laboratoire, il l'utilise pas longtemps, parce que on met du temps à le construire, ce laboratoire. Et je crois qu'il doit l'utiliser en gros 5 à 6 ans, parce qu'il a un conflit avec les sœurs.
Ah oui, les fameuses sœurs grises.
Les sœurs
alors,
grises.
Qui sont les sœurs grises?
Les sœurs grises, les sœurs à Cornette, les sœurs de Saint-Vincent de Paul.
C'est pas bonne, ces sœurs?
Ces sœurs grises, oui, elles sont bonnes. Simplement, elles sont embêtées parce que Parmentier, en arrivant, décide d'être un véritable apothicaire. C'est-à-dire qu'il va veiller sur la fabrication des remèdes. Et elle n'aime pas du tout avoir au-dessus d'elle un œil savant qui les surveille.
Bon.
Donc, elles vont envoyer des libelles à Madame Adélaïde, la fille de Louis XV, pour essayer d'obtenir du roi le départ de Stanislas.
Et de Parmentier qui va avoir beaucoup de déboires. Finalement, beaucoup d'ennemis, alors que c'est un homme il a eu quand même des gens qui ont copié ses travaux sans le dire. Enfin, il était en querelle parce que...
Oui, mais
un
si
peu
vous
triste, hein,
suivez toute l'histoire des sciences de cette époque,
c'était assez courant, oui.
Faisait fi des travaux de l'autre.
On se les appropriait volontiers,
oui,
voilà.
Oui,
et on faisait des communications à l'Académie des sciences.
Oui, Parmentier a été aussi membre de l'Institut.
Voilà, absolument. Il a eu du mal à y rentrer. Oui. Mais enfin, je crois qu'au bout de la 3e fois, il a fini par être effectivement élu, ce qui était tout de même normal à l'Académie des sciences. C'est un savant curieux, parce que c'est un savant qui n'est pas du tout enfermé dans sa discipline, ni même dans sa caste de savant. Et vous dites que c'est surtout un homme qui est doté d'un esprit pratique et qui, à cause de cela, parce qu'il veut rendre service à son prochain, au fond, il va vulgariser la connaissance, notamment à propos du pain. Expliquer comment on doit faire le pain, il va expliquer ça aux ménagères. Au fond, c'est un premier journaliste, il a un côté journaliste,
oui,
n'est-ce pas?
Oui, un petit peu, puisque en plus, il a, avec son ami Cadet de Vaux, qui est un autre apothicaire, il est à la base de la création du Journal de Paris, et qu'il écrivait régulièrement dans ce Journal de Paris, donnant des conseils aux ménagères, donnant des conseils sur la pomme de terre, sur la manière de fabriquer le pain, sur les produits de remplacement, quand les saisons avaient été peu propices aux céréales et comment on pouvait faire du pain de châtaigne. Il a tout essayé.
Et on faisait même du pain de pomme de terre. J'ai découvert ça en vous lisant d'ailleurs. Je ne savais pas qu'on faisait ça. Mais alors cette pomme de terre, elle avait une mauvaise réputation. On disait qu'elle portait des maladies. C'est pour ça que les gens ne voulaient pas en manger.
Elle avait le mauvais œil parce qu'elle est de la famille de la mandragore. Donc,
c'était plus superstitieux, alors.
Il y avait ça, il y avait que, on savait très mal l'utiliser, puisque lorsqu'on la ramassait, on la ramassait verte, et que elle était immangeable verte. Mmh. C'était le gros problème de Parmentier lorsqu'il a fait sa plantation de pommes de terre dans le champ des Sablons. On dit qu'il était content qu'on vienne lui voler les pommes de terre. Non, c'était faux. Il était très mécontent parce que les Parisiens volaient des pommes de terre vertes. Et il se plaignait auprès de la maréchaussée de l'époque et du bailli en lui disant « Mais ils vont manger ces pommes de terre vertes, ils vont être malades, donc ils vont plus vouloir goûter à la pomme de terre. »
Donc ça ne servait à rien.
Garder les champs jusqu'à la maturité des fruits. À ce moment-là, on pourra leur faire goûter les pommes de terre.
C'est peut-être que les pauvres gens avaient tellement faim. On voit aussi dans votre ouvrage toute cette époque où tout de même la famine est sans arrêt présente. Elle est là, les gens n'ont pas de quoi nourrir leurs enfants. Enfin, c'est dramatique.
C'est une des grandes
inquiétudes qui explique la Révolution, bien
C'est
entendu.
La grande période de la guerre des farines. Il y a eu toutes les disettes et les famines qui continuaient. Là, même sous le règne de Louis XVI, ça continuait.
Parmentier, il faut dire qu'il a tout de même vécu longtemps. Donc, il a commencé à connaître sous Louis XV, puis Louis XVI, évidemment, la Révolution, Bonaparte et Napoléon. Ça fait tout de même un large éventail dans l'histoire. Il a tout de même connu de larges époques. Comment s'est-il situé pendant la Révolution? Comment a-t-il échappé à l'échafaud, par exemple?
C'est un miracle. Il est passé très près de l'échafaud et il a été sauvé par ses camarades savants qui lui ont trouvé une mission. Il était chargé de rechercher des produits pharmaceutiques dans le sud de la France pour les armées de la République. Donc il est parti autour de Marseille et il cherchait de la soude notamment. Et il a appris que sa tête était mise à prix à Paris. Donc il a prolongé sa mission jusqu'à la fin, au moment de la chute de Robespierre. Et il est rentré à ce moment-là. C'est comme ça qu'il a échappé.
Sinon, je pense qu'il aurait eu
le même sort que Lavoisier.
Et il est mort en 1813. Donc, je rappelle qu'il était né en 1737. Donc, c'est un homme qui a tout de même connu beaucoup d'événements historiques. J'ai noté dans votre livre, Anne Muratori Philippe, cette très jolie lettre qu'il écrit à sa sœur, qui l'aidait beaucoup dans ses travaux pharmaceutiques. À propos de sa mère, quand elle est morte, mère adorée, confidente de ses enfants, uniquement occupée du bonheur de sa famille, gaie et la main toujours prête à secourir l'infortuné, réunissant tous les suffrages et n'en briguant aucun, accoutumée de bonheur aux vicissitudes de la vie, sans être devenue pour cela indifférente au malheur d'autrui. Moi, je me dis que c'était extraordinaire dans le ton,
c'est
dans
l'amour,
c'est joliment écrit. Et j'ai trouvé que dans votre ouvrage, on découvre un personnage avec une grande sollicitude pour autrui, une grande charité. Alors, je ne puis que le recommander, en recommander la lecture. Donc, Anne Muratori Philippe, Parmentier, paru chez Plon. Et je vous remercie d'être venue nous en parler, Anne Muratori Philippe.
Merci beaucoup.
Thank you.